Fin de ces plateaux radio sur le thème très 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 vaste de la musique au sein du SOS Musique numéro 3. Numéro 3 qui, comme nous le disions, est un des précurseurs d'une longue série. Ça ne s'arrêtera pas là. La lumière s'est tamisée, l'ambiance s'est adoucie, ça galope encore un petit peu dans les coins, mais il y a encore de l'énergie pour ceux qui voudront bien rester jusqu'à la fin, notamment pour le concert tout à l'heure des professeurs de l'école John. Mais avant toute chose, avant que nous embrayions sur cette partie qui va être la clôture, nous avons encore beaucoup de choses à dire, et notamment Didier Le Gall, notre invité, a beaucoup de choses à dire puisqu'on va discuter quasiment à bâton rompu du pouvoir de la musique. Bonjour Didier.
Bonjour Radium.
Ça va?
Ça va super bien.
Bon, on s'est vu l'année dernière, on a énormément discuté, on s'était dit que c'était le genre de discussion qu'on pourrait avoir pendant des heures et des heures. Nous n'avions que 45 minutes, il me semble, ou peut-être une heure la dernière fois. Et là, c'est pareil, nous allons avoir un temps compté et on va s'emmener comme ça, collectivement, autour du et des pouvoirs de la musique à travers votre expérience, votre métier. Quel est-il, votre métier?
Alors, avant de vous présenter mon métier, je tiens absolument à remercier John, qui m'accueille pour la troisième année consécutive. Je suis très heureux que cette manifestation perdure et s'améliore chaque année. Et c'est un très beau challenge. Et encore, bravo à John et merci. Donc mon travail consiste dans le commerce d'instruments de musique anciens. Je suis antiquaire spécialisé et je pratique également des expertises d'instruments de musique pour les commissaires-priseurs dans le cadre des ventes aux enchères publiques, ainsi que pour les assurances et les collectionneurs qui ont besoin d'attestations.
Et y a du monde qui défile, quel type de personnes vous voyez défiler le plus peut-être? C'est de tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs dans le Tarn par exemple qui viennent vous voir?
Alors oui, il y en a quelques-uns, bien que la plupart de mes clients aient plutôt un profil international. Donc j'ai beaucoup de clients qui se trouvent au bout du monde.
Donc ça se fait à distance?
Oui, beaucoup à distance et un peu en voyage également.
D'accord. Donc par exemple, il y a peut-être des phases préliminaires à distance et ensuite vous vous déplacez?
Oui, ça peut se faire, ou ils se déplacent.
D'accord. Ou c'est eux qui se déplacent avec leurs instruments. Ça commence avec quoi? Avec des photos? Avec un
oui,
registre?
Oui, grâce aux moyens de communication actuels, on peut avoir des échanges photographiques, de mails très précis, très rapidement.
D'accord. On va reparler de photos tout à l'heure, hein, puisqu'on va parler aussi d'une exposition. Une exposition qui est en cours, qui s'appelle À l'origine de la musique, qui est en cours au Musée du Bois. On va revenir là-dessus, effectivement, sur la partie visuelle qui entoure l'instrument de musique en général, son aspect, sa présentation. Alors, le pouvoir de la musique, comme beaucoup des sujets qui ont été choisis aujourd'hui, c'est un sujet très très vaste. On pense aussi, et ça fait partie de la réflexion, justement au pouvoir chamanique, au pouvoir un petit peu mystérieux que peut avoir la musique sur le corps, sur l'esprit, certains diront sur l'âme. On peut se lancer directement dans une question très ouverte, mais qu'est-ce que ça inspire ? Qu'est-ce que ça inspire le pouvoir de la musique là comme ça, par exemple aujourd'hui sur une manifestation comme ça, à part le fait de réussir à tout simplement à faire venir du monde ?
Eh ben déjà, justement, c'est ce que j'allais dire, la musique rassemble. Et ça, déjà, c'est formidable. Je pense qu'on peut tous se réjouir du monde qui peut participer à cette manifestation. Et surtout, elle rassemble des gens venus d'horizons très différents et qui peuvent avoir une histoire personnelle ou, comme l'a très bien dit John tout à l'heure, des cultures très différentes les uns des autres. Ensuite, évidemment, le pouvoir de la musique, c'est un vaste sujet dont plusieurs éclairages ont été donnés aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous parler d'un aspect du pouvoir de la musique qui est l'aspect guérisseur. Donc, dans le cadre de l'exposition de musique, d'instruments de musique dont je suis le commissaire d'exposition au Musée du Bois et de la Marqueterie de Revel, eh bien, plusieurs types d'instruments sont représentés qui, justement, sont des instruments qui servent aux chamans ou aux médecins guérisseurs pour soigner. Donc, l'instrument de musique peut soigner de manière tout à fait consciente. C'est-à-dire que nous avons parlé tout à l'heure de l'instrument de musique, effectivement, qui peut avoir un rôle de soins, d'apaisement de l'âme, mais il faut savoir que dans certains pays du monde, c'est une véritable culture et institution. La médecine par l'allopathie n'existe pratiquement pas en Inde ou au Tibet ou au Népal, pour parler de cette partie du monde. Et dans ces régions-là, il y a des médecins guérisseurs qui parcourent les montagnes avec un tambour dans le dos, un tambour de chaman, et ces gens-là guérissent depuis plusieurs siècles déjà leurs patients en leur envoyant des vibrations en direction de leur thorax avec un bâton, une baguette qui frappe la peau du tambour. Cette guérison, enfin du plus ou moins ces soins par la musique, par les vibrations que provoque le tambour, sont également accompagnés de rites religieux, sacrés, et de conseils pour consommer des plantes, également après un diagnostic que va faire le médecin guérisseur ou le chaman. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a des nuances dans tout ça.
Mais on parle, il y a une action mécanique, presque mécanique sur ce qu'on peut mélanger avec des rites. Quelle est la part, enfin il y a une grosse part psychologique évidemment, sans aller forcément jusqu'à un effet placebo, mais tout simplement le fait de pouvoir se guérir psychologiquement justement.
Alors, la part de la psychologie dans la médecine est aussi un vaste sujet en lui-même. Bien sûr qu'elle existe, et nous savons tous très bien que quelqu'un qui va avoir bon moral aura plutôt tendance à être en bonne santé. J'ai porté deux baguettes de chaman que je vous montre, qui ont donc le bout de la baguette qui est représenté avec un décor anthropomorphe. Donc anthropomorphe signifie une figure humaine. Et il existe également le terme zoomorphe, donc qui représente un animal. Donc ces baguettes de chaman sont des baguettes qui étaient utilisées justement par ces fameux médecins guérisseurs et qui sont toujours utilisées actuellement puisqu'on continue à pratiquer la médecine de cette manière. Voilà, alors ces baguettes peuvent servir aussi à d'autres usages.
Et on s'en sert comment, par exemple, de ces baguettes-là ?
Alors là, ce sont des bâtons de frappe, hein, tout simplement.
D'accord.
Elles frappent la peau du tambour.
D'accord, donc il y a un tambour qui est associé avec.
Voilà.
Et donc c'est ces fameux tambours, justement, avec lesquels on se promène sur le dos et on va de village en village pour...
Exactement. Pour... Là, il y a différents types de tambours. Dans l'exposition qui est au Musée du Bois, il y a un tambour Djangro, qui est en photo dans le catalogue.
Alors, fameux catalogue d'ailleurs que j'ai eu le plaisir de feuilleter juste avant que nous nous entretenions, qui fait la part belle, enfin qui liste tous les objets qui sont en exposition. Rien que le catalogue, déjà, c'est un objet graphiquement intéressant. C'est un objet agréable à avoir entre les mains. C'est aussi ça la partie, le pouvoir de la musique, mais aussi de l'instrument de musique ou de l'objet, de pouvoir avoir ça entre les mains, de pouvoir le toucher, le saisir, en saisir la texture, toute cette énergie qu'on peut ressentir justement sur un instrument de musique.
Oui, oui, bien sûr. Un instrument de musique qui est fait avant tout pour charmer nos oreilles et aussi là pour charmer nos yeux. Et c'est vrai qu'il a un pouvoir visuel qui n'est pas négligeable, qui nous invite, nous donne envie de le toucher et de le prendre et d'essayer de jouer avec. Alors le catalogue fait partie de la vision pédagogique que nous avions de cette exposition, à savoir que le visiteur puisse retrouver dans un catalogue les instruments de musique qui sont présents. Et dans cette exposition, nous avons également des vidéos qui représentent les instruments de musique exposés, donc en situation jouée par des musiciens de différents pays et régions du monde. Le gros intérêt du catalogue, c'est que le visiteur, une fois chez lui, peut être curieux et retrouver le nom des instruments qu'il a vus pour lui-même aller faire des recherches. Aujourd'hui, Internet, et je pense notamment à YouTube, offre une possibilité d'écouter tous ces instruments et c'est une mine d'informations qui est tout à fait exceptionnelle et sans fin pratiquement.
Je reviens un peu sur cette exposition, on va évidemment en parler. On ne peut pas toucher ces instruments évidemment sur l'exposition.
Alors, il y a certains dont on a eu clairement une volonté de mettre à l'abri des mains, d'autres non. Et effectivement, disons que le protocole muséographique demande à ce qu'on ne touche pas les instruments. Maintenant, si quelqu'un les touche, c'est pas grave. Voilà. Tant qu'il les abîme pas. Après, moi, je suis régulièrement donc au musée. Les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi pour des visites guidées. Et lors de visites guidées, les gens peuvent toucher les instruments autant qu'ils veulent.
Voilà, il y a essentiellement, hors visite guidée, il y a toute cette partie justement visuelle et qui est d'ailleurs très très bien décrite pour chacun des éléments de l'exposition, où en plus de la photo donc qui a été prise par un photographe qui est indiqué à la fin et dont je ne me souviens
Monsieur,
plus.
Monsieur Sarda, modèle, que l'on peut féliciter pour la qualité de ses photos.
Tout à fait, des très belles photos qui rendent bien compte de la finesse de beaucoup de détails de ces instruments justement et y a une description textuelle qui permet de se rendre un petit peu compte de certains détails que l'on ne voit pas sur la photo et donner aussi quelques éléments sur justement cette texture. Alors je reviens toujours au sens du toucher, mais qui est quelque chose qui est important et qui finalement habituellement n'est qu'à la portée du musicien et pas de la personne qui écoute la musique.
On peut clairement parler d'une forme de sensualité en ce qui concerne un instrument. Tous les musiciens connaissent cet aspect-là et je crois que tous les musiciens aiment, dans une certaine mesure, caresser leur instrument, le sentir contre eux, le toucher. Les guitaristes ressentent les vibrations de l'instrument contre leur ventre. Et les joueurs d'instruments avant ont des sensations aussi très fortes au niveau buccal, des bronches, etc. Du toucher avec les doigts. Il y a une vraie sensualité, bien sûr. Alors dans ce catalogue aussi, sur l'aspect visuel et des descriptifs dont vous me parlez, le pari pour moi était de faire des descriptifs simples, donc à la portée, à la lecture de tout le monde. hors de question dans cet événement de rentrer dans des détails techniques d'expertise, comme j'ai l'habitude d'en faire régulièrement. Donc une vision simple.
On est sur de la vulgarisation dans le bon sens du terme.
Exactement.
On rend accessible quelque chose qui peut être très très technique et très complexe.
Tout à fait. Donc c'est une exposition abordée en toute simplicité. Donc le côté visuel des instruments aussi dont vous parlez est intéressant parce que ces instruments sont souvent accompagnés d'une représentation donc anthropomorphe ou zoomorphique. Et là aussi, nous intervenons directement dans le rôle de la musique. Ces instruments, la plupart de ces instruments ont été fabriqués avec des matériaux issus de l'environnement naturel. Donc nous sommes dans une lutherie que l'on pourrait qualifier d'archaïque avec des matériaux naturellement évidés, par exemple, en ce qui concerne les instruments à vent. Donc les colonnes d'air des bambous, par exemple, sont naturellement évidées et donc après le musicien ou le facteur musicien ancestral a pu percer des trous pour rallonger ou raccourcir la longueur de la corde de la colonne d'air, donc pour changer les sons. En ce qui concerne les cordophones, c'est pareil. Il y a des le plus ancien des cordophones connus, n'aimant admis, est l'arc musical, qui est un arc qui pourrait ressembler à un arc de chasseur et dont la mise en vibration de la corde crée un son. Donc au départ, cet instrument avait comme unique caisse de résonance, la bouche du musicien et son larynx, comme c'est le cas pour un instrument beaucoup plus connu qui est la guimbarde qu'on pose devant la bouche. Et l'ancêtre des cordophones était fabriqué comme ça.
Donc le premier arc musical, on le posait sur le thorax, on le posait contre la tête.
Oui, devant la bouche. D'accord. Devant la bouche, et il pouvait être posé contre le thorax. D'ailleurs, nous pouvons nous honorer en Midi-Pyrénées de posséder une gravure rupestre qui représente un chasseur-cueilleur du néolithique dans une grotte qui s'appelle la grotte des Trois Frères en Ariège. Ce relevé aussi se trouve sur Internet. C'est un dessin qui a été relevé par l'abbé Breuil au début du XXe siècle et que l'on qualifie comme être l'ancêtre des cordophones. Cet instrument, ensuite, a été modifié, ajouté avec des calebasses comme première caisse de résonance et après, toujours pareil, l'environnement naturel, des dos en carapace de tortue, le début des tables d'harmonie qui étaient faites en peau. Donc j'ai porté un instrument aujourd'hui qui est un pluriarque. Donc ce pluriarque a la caisse de résonance qui est fabriquée en bois, une table qui est en bois également, et on voit clairement la rusticité de l'instrument avec un manche donc, qui est fait avec des morceaux de bois et des cordes qui à l'origine étaient faites avec du végétal, régulièrement des écorces d'arbres qui étaient pilées, modifiées, mouillées, enfin, et qui ont transformé en cordes. Et sans transition, je vous parle du décor de cet instrument qui va nous amener aussi directement au pouvoir de la musique. Il y a sur cet instrument une espèce d'animal qui est sculpté en haut, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, voilà, qui se trouve ici. Alors, qui est une sorte
d'ici je vois un quadrupède, un mammifère peut-être.
Exactement, un mammifère quadrupède, ça peut être un singe, ça peut être beaucoup de choses en fait. Et là aussi c'est très intéressant parce que l'instrument de musique a eu pendant très longtemps un rôle qui lui permettait de rentrer en contact avec les esprits. Alors je le dis d'une manière un petit peu directe, mais je vais, si vous voulez bien, vous le détailler. Donc en fait, que ce soit les hommes médecine et chamans dont on parlait tout à l'heure, ou voilà, essentiellement les chamans, l'instrument de musique est un outil qui permet la modification d'un état de conscience. Donc ça a été un petit peu abordé aussi aujourd'hui, notamment dans les instruments de musique qui permettent la relaxation. Les chamans maîtrisaient déjà parfaitement cet art et en jouant l'instrument devenait un outil pour modifier l'état de conscience de manière tout à fait délibérée.
Accéder à la transe, justement.
Alors, ils accédaient à la transe, bien sûr. Et dans la transe, ils pouvaient voyager dans l'espace-temps pour aller consulter des esprits, notamment des esprits défunts. Mais ces esprits pouvaient être aussi des esprits immatériels, comme l'air, l'eau, des choses beaucoup plus naturel finalement. Et le musicien, en fait, le musicien chaman partait dans l'esprit de l'animal qu'il sollicitait. Donc on peut imaginer que le chaman et le musicien qui jouaient de ce pluriarque se mettaient dans l'esprit de cet animal représenté.
Il a quel âge cet instrument ?
C'est un instrument qui date du début du XXe siècle.
D'accord. Et qui vient d'où ?
Il vient du Congo, de la tribu des Wembe.
D'accord.
Donc il y a plusieurs instruments de ce type dans l'exposition du musée du bois de Revel. Des choses exceptionnelles, quelques instruments tout à fait exceptionnels qui seraient dignes d'être conservés dans les plus grands musées du monde. Je pense notamment à un luth qui est un luth Quitra, que j'ai eu la chance d'acheter il y a un an, pratiquement jour pour jour. Et ce luth Quitra, il y en a très très peu dans le monde. Il y en a un qui est au Musée de la Musique de Paris et il y en a un aussi qui est conservé au Metropolitan de New York. Bon, moi, je peux me vanter, celui-là est plus beau.
Il est mis en exergue hein, dans le catalogue, c'est le premier.
Voilà, le luth Quitra qui est le premier de la photo et qui a une table d'harmonie qui est décorée d'une rose qui est tout à fait exceptionnelle avec un décor en os à l'arrière et sur les côtés. Donc là encore, on est déjà dans une lutherie quand même beaucoup plus élaborée et c'était un des instruments les plus élaborés au niveau du type de lutherie de l'exposition. À côté de ça, nous avons des choses très très simples qui nous a semblé utile de représenter et notre but n'était pas de faire une exposition avec des instruments remarquables. Par exemple, cette paire de tambours Nagarette tout à fait commun mais tout à fait représentif des percussions. Donc des tambours dont le fût est en céramique et recouvert de peau. Hein, ce sont des choses qu'on trouve surtout au Maghreb et nombre d'entre nous en avons acheté dans nos voyages touristiques pour les ramener. C'est des choses qu'on peut trouver au vide-grenier du coin, qui ne sont pas chères du tout, très répandues, qui sont de vrais instruments.
Vous avez obtenu une dérogation pour un instrument où il n'y a pas du tout de bois pour l'exposer au musée du bois.
Heureusement pour nous, le musée du bois a une très très large ouverture d'esprit et il est aussi un centre d'art contemporain. Donc un lieu d'accueil pour l'art et sans réserve.
Et on les en remercie.
On les en remercie, on peut saluer leur nouveau président qui est monsieur Eleftherion. Puisqu'il y a eu un changement de bureau au musée du bois, et surtout saluer le grand ordonnateur de l'équipe culturelle, qui est mon ami Pierre-Yves Leiser.
On est sur l'exposition, si je ne m'abuse, trois familles d'instruments. C'est ça, avec la dernière famille qui est regroupée, avec les. Alors il y a des instruments à percussion, c'est la dernière famille, sauf si je ne m'abuse.
Oui, c'est bien ça.
Évidemment, ça devrait faire sourire beaucoup les enfants parce qu'il y a les idiophones. Qu'est-ce qu'un idiophone ?
C'est très simple, c'est un instrument qui nous rend bêtes quand on le joue. Non, je plaisante.
Il n'y en a pas ici, du coup.
Depuis que Jonathan nous a appris que nous autres, les musiciens, étions nettement plus intelligents, nous sommes très contents. Alors, idiot, en fait, c'est un mot, un préfixe qui, au niveau de l'étymologie, signifie particulier. Et en fait, quand on dit de quelqu'un qu'il est un idiot, en fait, c'est pas... Ça peut avoir évidemment une consonance péjorative dans le langage commun, mais ce n'est pas forcément le cas. En fait, c'est quelqu'un qui est original, qui est différent des autres et qui n'est pas dans le moule, on va dire. Et les idiophones, ce sont des instruments qui, en fait, produisent un son par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la mise en vibration de leur propre corps sonore qui crée un son. Voilà. À la différence des cordophones, où il y a une action sur la corde qui est nécessaire, et ou des aérophones où il faut mettre en vibration la longueur d'une colonne d'air pour produire un son.
Il faut apporter de l'énergie alors qu'il suffirait par exemple de faire tomber...
Alors un idiophone aussi, il faut apporter de l'énergie.
Oui.
Ce qu'il y a, c'est que le matériau... on peut dire que le plus ancien idiophone connu au monde, c'est les claquettes. Hein, c'est taper dans ses mains, c'est un idiophone. Le corps par lui-même crée un son sans quelque chose de l'extérieur.
Très bien. Un mot sur justement les instruments, les aérophones. Est-ce qu'ils ont une particularité, notamment on pense toujours à la manière, on s'imagine la manière dont les premiers hommes ont commencé à faire de la musique, ont commencé à faire sonner des choses. Justement, on parle des peintures rupestres, mais est-ce qu'il y a une partie d'imitation de la nature qu'on peut imaginer ? On parle toujours, par exemple, pour la flûte, le vent qui soufflait naturellement dans les roseaux, et que ça, voilà, ça a donné l'idée de rendre ça artificiel, et de créer, de provoquer cet état.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, parmi les recherches qui ont été faites par les archéologues de la musique, il y a un instrument emblématique qu'on appelle la rombe. La rombe, c'est un aérophone qui crée un son, non pas en soufflant dedans, mais en le faisant tourner dans l'air. Donc, c'est à la forme d'un poisson, un peu. Et donc, en le faisant tourner en l'air avec une ficelle qui doit faire 2 ou 3 mètres, donc il faut faire quand même attention à qui il y a autour, cet instrument crée un son. Il tourne sur lui-même en même temps qu'il tourne autour du musicien. Et il crée un son. Donc, on estime que ce son-là avait plusieurs vocations. Il pouvait être un signal sonore. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'instruments primitifs qui sont des signaux sonores, comme les sifflets, par exemple. Le simple sifflet qui, au départ, d'ailleurs, était 2 doigts posés dans la bouche. Hein. On pense aux bergers du Béarn, par exemple, pour rester régional. Mais aussi, il pouvait avoir le but d'effrayer les animaux. La rombe était peut-être un instrument qui permettait d'effrayer les animaux qui ne comprenaient pas, finalement, ce bruit. Et là aussi, c'est encore un aspect de la musique. Il ne faut pas oublier que la musique est entendue par les hommes, mais elle est aussi entendue par les animaux. Et comme nous l'a si bien expliqué John tout à l'heure, par les plantes sensibles à tout un univers.
Un des pouvoirs de la musique, finalement, on peut se dire que ça a largement participé au développement des civilisations.
Ah ben, j'en suis intimement convaincu, bien sûr.
Et c'en est la cause et non pas la conséquence. Est-ce que ça va loin ?
Oui, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est très difficile de répondre à cette question. Jacques Attali a écrit un livre absolument passionnant qui est un peu difficile à lire. Je l'ai démarré il y a une vingtaine d'années. Je ne suis toujours pas arrivé au bout. Il y a des passages que j'ai relus 10 fois. Mais il explique très bien que la société a son propre univers sonore. Chaque société a son propre univers sonore. Et qu'on peut pratiquement, à travers l'écoute de la musique d'une société, dire qui elle est et ce qu'elle va devenir. Et l'instrument de musique est toujours un outil. L'instrument de musique est un outil qui crée des sons et qui est représentatif de la musique de son époque. En tant que tel, il représente la musique de l'époque à laquelle il a été créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire une image vraiment très simple, par exemple la guitare électrique, bon, elle est électrique, elle correspond à notre époque. Et les instruments du 18e, 19e siècle étaient essentiellement destinés à un usage privé pour l'aristocratie, donc ils n'avaient pas besoin d'un grand volume sonore puisqu'ils étaient joués dans de petits espaces. Il va falloir attendre le 19e siècle, la grande démocratisation de la pratique musicale, pour que les facteurs d'instruments et les musiciens, dans une corrélation permanente, fabriquent des instruments avec une plus grande portée de son. Et évidemment aussi que les facteurs d'instruments les fabriquent en plus grande quantité pour répondre à une demande de plus en plus importante.
Eh bien, est-ce que ça peut conclure puisqu'on est sur une petite partie d'histoire. Est-ce que ça peut conclure sur le faible temps qui nous était imparti? Est-ce qu'on peut rajouter des choses? Il y a plein de choses à rajouter.
Il y a plein de choses.
Énormément de choses à rajouter.
Il y a plein de choses à rajouter. Si vous permettez, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit et qui était un petit peu une conclusion de la présentation de la visite du musée du bois que j'ai fait lors de l'inauguration et qui, je pense, aujourd'hui conclura non seulement le plateau radio, mais un petit peu l'ambiance du SOS Musique, à savoir une ouverture sur la compréhension, permettre aux musiciens de mieux comprendre ce qu'ils jouent, pourquoi ils jouent, aider les auditeurs à mieux comprendre ce qu'ils entendent, à s'interroger sur la musique de chaque époque. La musique permet d'exprimer ses émotions. Elle peut être divertissante, invitée à la rêverie et à l'amour. Elle sert la parole de Dieu et chez certains peuples, elle facilite la modification d'un état de conscience et permet d'invoquer les esprits. Elle rythme le pas du soldat au champ de bataille et fédère au son de l'hymne national. Elle dirige les protagonistes lors d'une chasse à cour. Elle rassemble ou divise. Elle est utilisée à des fins thérapeutiques. Elle sert de support aux contes et légendes. Elle affirme son appartenance à un clan ou à une catégorie sociale. Elle est un prolongement de soi, de notre identité et de nos valeurs.
Merci infiniment, Didier Le Gall. On se retrouve dans tous
Merci
les cas, c'est
vous.
Sûr, l'année prochaine pour un SOS Musique numéro
Avec
4.
Avec plaisir.
On a tous les moyens de vous soumettre éventuellement si on possède, si on veut faire expertiser un instrument ou si...
Oui, alors bien sûr, je suis à disposition de tout le monde pour de l'expertise, pour des conseils, pour beaucoup de choses. Après, j'ai un très gros réseau, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont la compétence m'échappe. Par contre, je connais bien le cheminement pour ça. Pour ça, et donc j'invite tout le monde encore une fois à venir visiter cette exposition, donc au musée du bois et de la marqueterie de Revel.
C'est jusqu'au 22 juin au musée du bois et de la marqueterie de Revel. L'exposition s'appelle À l'origine de la musique et à l'appui, si vous voulez aussi dans le public venir voir les catalogues, il y a de très belles pièces que vous pouvez évidemment voir. C'est juste à côté, donc il faut en profiter. Merci beaucoup, Didier Le Gall, et à
Merci
très bientôt.
À vous. Au revoir.